Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche Politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Loïc Bussière, ce que disent les uns et les autres à la radio et à la télé. Et nous décrypterons cette parole avec vous. Pierre-Emmanuel Guigot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en histoire à l'université Paris-Est-Créteil. La semaine prochaine, vous publiez une biographie de Michel Rocard aux éditions Perrin. Et vous êtes le co-auteur d'un livre intitulé « La communication politique chez Pearson ». Plus que 4 jours pour peaufiner sa liste pour les municipales. Jeudi, en effet, elles doivent être déposées en préfecture. En ce moment même, Rachida Dati est en train de peaufiner, de mettre la dernière main à son programme, elle. Demain, la candidate LR à la mairie de Paris annoncera formellement son projet pour ravir l'hôtel de ville à Anne Hidalgo. Quant à Agnès Buzyn, qui depuis une semaine est la nouvelle candidate de La République En Marche, elle détaille le sien dans le journal du dimanche, avec comme priorité la sécurité et la propreté. Anne Hidalgo s'exprime, elle, sur Radio J, Cédric Villani sur Europe 1. Bref, Loïc, les principaux candidats à la mairie de Paris sont omniprésents dans les médias et vous les avez écoutés.
À commencer par le dissident Cédric Villani, ex-marcheur devenu concurrent d'Agnès Buzyn. Le député de l'Essonne avait, on rappelle, été exclu de La République En Marche pour avoir refusé de se ranger derrière l'ancien, désormais candidat macroniste officiel, Benjamin Griveaux. Ce dernier s'étant mis hors jeu, la question d'une candidature de rassemblement derrière Agnès Buzyn se pose, avec insistance ces derniers jours, enfin peut-être pas pour Cédric Villani.
Mais c'est clair, il n'y a pas de rapprochement de premier tour, bien évidemment, et pour le deuxième tour, le moment n'est pas venu. Pour l'instant, je suis ouvert, je suis à l'écoute, comme toujours, un homme de discussion. Mais ce qui m'importe ici, c'est de mettre en œuvre le projet, les idées, et de faire valoir les idées du programme.
Cédric Villani, candidat dissident, mais homme de discussion, on l'entend, en tout cas jusqu'au premier tour, hein, et qui fait valoir sa différence, alors que d'autres, justement, auraient tendance à être interchangeables. C'est l'avis, en tout cas, de Marine Le Pen, qui peine, justement, à faire la différence entre deux candidates que les sondages placent dans le trio de tête à Paris.
Toutes les deux, elles sont sur le même créneau. Hein,
Toutes les deux.
Buzyn et Rachida Dati, aujourd'hui il y a deux quotidiens, il y en a une c'est propre et sûr et l'autre c'est sûr et propre quoi.
Marine Le Pen qui raille, on l'entend sur Europe 1, l'absence de différence supposée entre Agnès Buzyn et Rachida Dati, elle n'est pas la seule à trouver des points de convergence entre les candidates Les Républicains et La République En Marche. Anne Hidalgo au micro de Radio J.
Je constate qu'il y a dans les propositions de ces deux candidates, l'une pour La République En Marche, l'autre pour LR, c'est-à-dire deux candidatures quand même très partisanes, je constate qu'il y a dans leurs propositions quelque chose qui relève du conservatisme, voire du retour en arrière.
Toutes les deux, pareil.
Et que c'est assez proche.
Voilà, Anne Hidalgo qui note une certaine proximité entre Rachida Dati et Agnès Buzyn, la candidate de La République En Marche, entrée en campagne à la dernière minute et qui, sans l'affaire Griveaux, serait restée ministre de la Santé, un poste qu'elle a été contrainte de quitter, contrairement à Édouard Philippe, qui lui reste à Matignon tout en faisant campagne au Havre. Une différence de traitement qui fait grincer quelques dents, pas celle de Jean-Christophe Lagarde. Écoutez le président de l'UDI.
Madame Buzyn, elle a un mois pour faire campagne. Effectivement, qu'elle est dans la capacité de faire les deux. Monsieur Philippe, il était maire du Havre, il connaît un peu mieux les dossiers. Qu'elle doit prendre en connaissance.
Jean-Christophe Lagarde, invité de France 3 aujourd'hui.
Et j'ajoute que le journal du dimanche publie un premier sondage depuis l'abandon de Benjamin Griveaux. En voici les principaux enseignements pour le premier tour.
Anne Hidalgo est crédité de 24% des voix. Rachida Dati de 22%. Suivi d'Agnès Buzyn avec 19%, alors que Benjamin Griveaux est plafonné à 15%. David Belliard, l'écologiste, est crédité de 12%, Cédric Villani de 9%.
Voilà pour les chiffres que l'on peut interpréter ainsi. Anne Hidalgo est donc toujours en tête mais ne progresse pas. Rachida Dati poursuit sa dynamique et Agnès Buzyn redonne des couleurs aux macronistes. Pierre-Emmanuel Guigot, donc professeur d'histoire à l'université Paris-Est-Créteil, je le disais, c'est dans la rue et sur les marchés ce matin que les candidats partout en France ont sollicité les suffrages des électeurs. En plus de cela, pour ce qui est de Paris, ils parlent dans les médias. C'est un vecteur toujours aussi important. Ce sont des personnalités nationales, d'ailleurs, il faut le remarquer, qui s'expriment le plus souvent.
Oui, tout à fait. Pour les médias tels que la télévision et la radio, ça va être effectivement les principales
personnalités les plus connues, celles qui ont une envergure nationale, Christian Estrosi évidemment à Nice, les candidats à la mairie de Paris, Martine Aubry à Lille, Gérard Collomb à Lyon. Les autres ont moins accès à la télévision. Encore que ce qu'on a vu depuis maintenant une décennie, c'est l'émergence des chaînes d'information continue, des médias en général d'information continue, qui eux ont besoin d'autres personnalités politiques, pas forcément ceux du premier rang, et ils ont besoin de se nourrir de ces gens-là, et donc il y a des gens qui percent comme ça petit à petit.
On parle de la radio et de la télévision, il faut noter que la presse écrite, qui est en perte de vitesse, joue en revanche pleinement son rôle dans ces municipales.
Oui, complètement. Alors en France, on a une identité de la PQR qui reste très forte.
Presse quotidienne régionale.
Presse quotidienne régionale, tout à fait. Qui reste très forte, qui reste très présente, et on la voit, elle joue un rôle dans ces campagnes municipales. C'est sans doute, pour la plupart des municipalités, le principal moyen de faire entendre sa voix, y compris pour les petites localités d'ailleurs, hein, parce que le national, les médias nationaux s'intéressent essentiellement aux grandes villes. Mais pour les petites communes, eh bien, la PQR accorde encore une grande importance à ces élections.
Et vous notez que les réseaux sociaux font leur apparition, ils jouent désormais un rôle au niveau local.
Oui, ça c'est nouveau, hein, parce qu'au niveau national, maintenant on commence à être habitué, les réseaux sociaux sont devenus un élément des campagnes, et pas que des campagnes d'ailleurs. Au niveau local, il y avait des candidats qui essayaient, mais ça restait, ça restait quand même relatif, on va dire. Chacun avait sa page Facebook, mais ça restait quand même secondaire. Là, désormais, c'est devenu quelque chose d'assez systématique, on a son compte sur les réseaux sociaux, et on l'alimente de manière régulière, on prend des photos, des meetings. Il y a même des meetings qui sont retransmis directement en Facebook Live, par exemple.
Pierre-Emmanuel Guigaud, la place des femmes dans ce scrutin municipal, elles ne sont aujourd'hui que 17% à être maires, mais les choses changent. Que des candidates à Nantes, les trois principales têtes de liste à Paris sont emmenées, les trois principales listes sont emmenées par des femmes. Est-ce que vous avez une explication ?
Oui, on peut déjà s'en réjouir, parce que c'est vrai que la vie politique française en particulier a été longtemps très très virile, hein, et les partis ont peiné quand même à accepter la parité. On peut avancer comme explication que le maire apparaît comme la figure de la proximité politique. Et longtemps, l'image qui était accolée aux femmes, c'est qu'elles géraient justement le foyer, elles étaient plus soucieuses de gérer les liens de proximité, et que c'est donc ça qui fait qu'on les retrouve plus à cette position municipale qu'on va les retrouver, par exemple, à la députation. Espérons que ces stigmates de genre disparaissent de manière définitive.
À Paris, donc, Hidalgo, Dati, Buzyn, c'est le trio. Quelle est l'image de chacune d'entre elles ?
Bah, Anne Hidalgo, c'est sans doute celle qui est la plus connue du grand public, parce qu'elle est là maintenant depuis longtemps, hein, en tout cas, elle est pour un deuxième mandat, et son prédécesseur, Monsieur Delanoë, avait contribué déjà à la mettre sur la rampe avant même l'élection de 2014, donc c'est une personnalité qui est connue, qui clive beaucoup. On le voit régulièrement dans les sondages, c'est-à-dire qu'elle est certes toujours en tête, et encore ça dépend des sondages, le sondage Odoxa était un peu moins bon pour elle, Rachida Dati passait devant, mais elle clive beaucoup parce qu'il y a un fort mécontentement. Mais pour le moment, vu la situation qui est spécifique et qui est particulière à Paris, hein, c'est-à-dire qu'on vote par arrondissement, et ça on le dit peu, et ça entre en compte, c'est-à-dire que tous ces sondages finalement ne donnent pas un reflet de ce que va être véritablement l'élection à la fin, parce que c'est une élection par arrondissement.
Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « La communication politique », vous faites donc très attention à la forme. L'image de Cédric Villani a évolué considérablement, il ne cultive plus son image de génie excentrique, de professeur tournesol, vous le constatez, ça explique aussi qu'il dure dans cette campagne.
Ou le contraire, ou qu'il est en perte de vitesse, parce que il a un petit peu brisé ce qui faisait justement son génie, ce qui faisait son originalité au début de la campagne, et ce qui séduisait une partie de l'électorat, qui quand même a envie un peu de renouvellement, de changement, d'avoir autre chose que la politique traditionnelle. Aujourd'hui, il a voulu, on va dire, se normaliser, apparaître comme un gouvernant capable d'assumer les responsabilités de maire de Paris. Peut-être que ça lui a fait perdre un peu de son identité première.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI. Dans un rare moment de concorde sur la réforme des retraites, l'Assemblée nationale a adopté ce dimanche un amendement gouvernemental inscrivant dans le texte la notion de niveau de vie digne. Il y avait eu des propositions similaires émanant de plusieurs bords politiques. Le secrétaire d'État chargé des retraites, Laurent Pietraszewski, en a profité pour saluer une volonté de compromis, d'accélération des travaux. Il faut dire que ce vote intervient après une semaine de blocage, sachant que pas moins de 35 000 amendements ont été déposés. Alors comme il ne sera pas possible de les examiner car le temps presse, il y a de plus en plus de spéculations sur un possible recours au 49.3 pour faire adopter la réforme. Je rappelle que ce dispositif prévu par la Constitution permet d'adopter un texte dans le débat parlementaire, sans vote, moyennant quoi le gouvernement s'expose à une motion de censure. Et bien sûr, il en est largement question dans les médias avec les politiques.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce 49.3 est loin de faire l'unanimité. Certains députés affichant même très nettement leur peu de goût pour sa mise en application. On parlait de lui il y a un instant. Écoutez Cédric Villani.
Ce qui se passe aujourd'hui dans l'hémicycle est un triste spectacle. Jean-Luc Mélenchon nous dit que dénonce le 49.3. Il faut bien voir aussi la façon dont l'obstruction systématique est faite aujourd'hui qui ridiculise le Parlement. Je ne suis pas fan du tout du 49.3. Je suis pour le débat démocratique. Et je pense qu'il faut tout faire pour qu'on trouve une autre solution que le 49.3.
Le candidat à la mairie de Paris et député de l'Essonne, ex-La République En Marche, Cédric Villani sur Europe 1, qui se désole du spectacle donné par ses collègues et qui redoute, on l'entend, que le gouvernement ne dégaine le 49.3. Oui, mais est-ce que le gouvernement a vraiment le choix ? Non, répond Jean-Baptiste Moreau, élu marcheur de la Creuse.
Ça sert à rien de faire traîner ces discussions-là, elles n'aboutissent à rien. Donc ça sert à rien de faire traîner ça pendant 2 mois. Je veux dire, ça n'apportera rien au débat puisque les oppositions sont dans une attitude totalement fermée et posent des sous-amendements tous les jours pour réaugmenter encore le volume des discussions. Donc il faut le dire, les oppositions cherchent le 49.3. Comme ça, elles pourront hurler au déni de démocratie.
L'hémicycle dans l'impasse à cause de députés qui confondent opposition et obstruction, des députés qui espèrent un 49.3 sur le sujet des retraites pour pouvoir désigner un coupable dans ce dossier. C'est le propos de Jean-Baptiste Moreau, invité de France Info ce matin. Le propos, ou plutôt la ligne de son parti, parce qu'il n'est pas le seul, loin s'en faut, à défendre cette position. Député et ministre marcheur se relaient depuis quelques jours dans les médias pour, en quelque sorte, préparer le terrain à une adoption sans vote de la réforme des retraites. Explication de texte, Jean-Michel Blanquer.
Cette majorité et ce gouvernement n'ont jamais souhaité utiliser le 49.3. Et même encore aujourd'hui, quand même, la situation, elle est évidente. On a des gens qui essayent de saboter un débat et qui après vont se plaindre des conséquences du sabotage qu'ils ont fait. Donc, de grâce que les commentateurs ne fassent pas semblant de tomber dans le panneau. Il y a clairement des responsables de la situation. Ils sont très clairement identifiables. C'est notamment LFI et le Parti communiste et tous ceux qui, en réalité, n'aiment pas les débats de fond.
Voilà, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, invité de BFM ce dimanche.
Alors, ce sujet du 49.3 sera au menu de la rencontre entre le président de la République et le Premier ministre demain, puis d'un petit déjeuner des dirigeants de la majorité mardi. Et il se murmure que le lendemain, mercredi, le jour du Conseil des ministres, le gouvernement pourrait annoncer la mesure. Il s'agit donc de préparer le terrain pour les élus de la majorité.
On a entendu à l'instant les voix de la majorité qui expliquent que l'utilisation du 49.3 sur ce dossier des retraites est de la responsabilité, ou plutôt de l'irresponsabilité de l'opposition. La France insoumise et le Parti communiste en tête. La parole à la Défense. Écoutez l'interprétation qu'en fait Adrien Quatennens.
Soyons clairs, depuis 3 jours à peu près, alors que les débats viennent de commencer à l'Assemblée nationale, la majorité est en train d'organiser et de réunir les conditions de la préparation des esprits au 49.3, en surjouant l'indignation sur l'obstruction parlementaire.
La majorité qui surjouerait l'indignation, selon Adrien Quatennens, et qui prépare l'opinion à l'utilisation du 49.3, même son de cloche au Parti communiste, et même indignation. Pierre Dharréville, député des Bouches-du-Rhône.
Le 49.3, c'est une marque d'infamie qu'on appose au bas d'un texte. C'est-à-dire, c'est vraiment le signe d'un passage en force. Or, nous constatons que depuis le début de cette affaire, c'est quand même effectivement l'intention du gouvernement que de passer en force, de n'écouter personne, de ne discuter ni avec les organisations syndicales, ni avec le Parlement, ni avec le peuple en le consultant par référendum. En fait, on a en face de nous une majorité Caliméro. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils interviennent dans le débat, c'est pour nous expliquer que la méchante opposition a décidé de les obliger à utiliser le 49.3.
Le député communiste Pierre Dharréville chez nos confrères de France Info, et à ceux qui, comme Jean-Michel Blanquer, que l'entendait tout à l'heure, affirment que l'opposition n'aime pas le débat de fond, eh bien Adrien Quatennens fait cette précision.
Je vous l'accorde, hein. Notre but n'est pas de coopérer avec le gouvernement. Moi, comme opposition parlementaire, je ne suis pas là, dans un conseil d'administration, à co-construire un texte avec mes collègues, d'accord ? Je représente une part majoritaire, si j'en crois vos enquêtes d'opinion, de la population française, qui pense que le bon port pour ce texte, pour reprendre les mots de Sibeth Ndiaye, ce serait la poubelle. Voilà, en réalité, ce que je représente.
Le député insoumis du Nord, Adrien Quatennens, sur France Inter ce dimanche.
Pierre-Emmanuel Guigaud, Michel Rocard, à qui vous consacrez une biographie qui sera publiée ce jeudi prochain, avait été le premier chef de gouvernement à vouloir réformer les retraites. Votre ouvrage apporte donc un éclairage particulier. Quelle méthode préconisait-il ?
Oui, donc il a publié un livre blanc sur les retraites, qui était le premier acte, hein, où on s'intéressait à ce qui est devenu un problème par la suite. Et donc il disait qu'il fallait prendre en main dès cette époque-là. C'était en 1991, hein. C'était en mars 1991. Donc vous voyez que ça commence à dater, hein. Ça fait plus que 30 ans. Enfin, ça va faire 30 ans. Donc effectivement, il était un des premiers à le voir, et selon lui, forcément, il devait y avoir, eh bien, une discussion qui devait être longue dans la durée, qui devait se faire avec les partenaires sociaux, bien évidemment. Il a toujours cherché à dialoguer avec les partenaires sociaux au cours du gouvernement, mais aussi avec l'opinion publique. Et donc, il avait lancé déjà des consultations dans tout le pays pour que, justement, eh bien, on demande l'avis aux gens, qu'on les consulte, qu'on leur propose des solutions. 3-4 solutions différentes, pas une qui serait imposée directement, et à partir de là, au bout de 2-3 ans de débat, eh bien, émergerait finalement une solution qui ferait évidemment pas consensus, hein. Il était bien conscient que le consensus sur un tel sujet n'émergerait pas, mais qui permettrait quand même de rassembler une majorité derrière ce projet-là. 30 ans plus tard, on voit que les choses ne sont toujours pas solutionnées.
Philippe Le Caplin. En ce dimanche bien gris au-dessus de l'Île-de-France et donc de Paris, pour aller à la campagne, il suffisait de se rendre à la porte de Versailles, là où se tient le salon de l'agriculture, inauguré par le président de la République qui a passé 12 heures hier. Emmanuel Macron y a exprimé son soutien aux agriculteurs. Et puis il y a les critiques dont ils sont victimes concernant leurs pratiques, notamment en matière de pesticides.
L'agribashing, notamment montré du doigt par Emmanuel Macron, même si on le verra, un sondage cette semaine montre que la cote d'amour de la profession est plutôt bonne. Il n'empêche, le chef de l'État s'est présenté en défenseur des agriculteurs hier matin devant micros et caméras alors qu'il inaugurait le salon de la porte de Versailles.
Nous sommes derrière notre agriculture et nos paysans. Ce sont nos paysans qui nous nourrissent chaque jour. On doit être fiers de notre agriculture française. Elle a, dans notre histoire, nourri le pays et elle va continuer de le faire. Et je le dis dans un moment où notre pays vit parfois des tensions, rien ne doit justifier des actions contre nos paysans et contre les exploitations, rien, et nous serons intraitables sur le sujet.
Voilà Emmanuel Macron qui défend les paysans au salon de l'agriculture. Défendre les paysans, c'est une posture qui, pour une fois, fait consensus, surtout en cette période de salon de la porte de Versailles. Quelle que soit sa tendance ou son parti, tout le monde aime les paysans et dit vouloir les défendre. Écoutez Marine Le Pen.
Moi, ce qui m'intéresse, je vais vous dire, c'est que le salon de l'agriculture ne devienne pas un musée. Vous voyez, où on va voir comment ça se passait avant. Ah, ça a disparu, j'aimerais bien savoir comment ça se passait avant. Comme il y a aujourd'hui en France des musées de la chaussure, parce qu'il n'y a plus d'industrie de la chaussure. Moi, ce que je vois, c'est que l'agriculture française a un avenir extraordinaire pour peu que l'État stratège la défende.
Pierre-Emmanuel Guigot, c'est une tradition. Hein. Chaque salon de l'agriculture est inauguré par le président de la République, clôturé par le Premier ministre. Quel qu'il soit, le chef de l'État clame son amour du monde paysan. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, c'est lié à notre imaginaire collectif. On se vit encore en tant que Français comme des ruraux. Hein. On a tous gardé des liens avec la ruralité et c'est très ancré. Pendant longtemps, hein, la France est restée un pays rural hein, jusqu'aux années 30. C'est là qu'il y a le basculement vers l'urbain. Alors aujourd'hui, on habite tous en ville, à plus de 80% de la population, mais on continue à avoir cet imaginaire-là. Et donc les politiques se font les porte-parole de cet imaginaire-là.
L'image du monde paysan a pris un coup récemment avec les critiques relatives à l'utilisation des pesticides alors que la mode est aux produits bio. Pourtant, à en croire un sondage Odoxa, 88% des Français ont une bonne opinion des agriculteurs. Y a-t-il une explication à ce paradoxe ?
Oui, tout à fait. Clairement, on voit que effectivement, ce discours-là s'est ancré chez un public militant, dans les médias, mais il touche en partie l'opinion, mais pas totalement. C'est-à-dire que les gens se vivent toujours comme proches des paysans, même s'ils vont plus, mais en même temps, ils veulent aussi une autre forme d'agriculture.
Et il faut remarquer que le salon de l'agriculture, il y a plein de salons organisés tous les ans à Paris, finalement, c'est le salon événement tous les ans.
Pour les politiques.
Pour les politiques.
Pour l'aspect politique, effectivement.
Et pour le public aussi.
Pour le divertissement, parce que, justement, c'est ce mythe de la campagne, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est la campagne qui vient directement à Paris, et donc les gens peuvent revivre cet imaginaire presque de Marie-Antoinette. Hein. Je redécouvre une campagne maîtrisée, cette fois-ci, hein, où tout est bien contrôlé, il n'y a rien qui dépasse, quand même, au salon de l'agriculture.
Merci pour ces analyses et commentaires, Pierre-Emmanuel Guigot, maître de conférences en histoire à l'Université de Paris-Est-Créteil. Je rappelle que, la semaine prochaine, vous publiez donc une biographie de Michel Rocard aux éditions Perrin, et vous êtes le co-auteur d'un livre intitulé « La communication politique » aux éditions Pearson. La politique encore sur RFI, ce sera demain matin. Célia de Lavergne, députée de la Drôme, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, qui sera l'invitée de la rédaction. Elle est également la vice-présidente de la commission spéciale sur la réforme des retraites dont on parlait. À noter aussi que mardi politique recevra Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. C'était Dimanche politique sur Radio France Internationale.